Europe 1 Culture Média.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour Culture Média au menu. Média et culture au sens large. Tous les médias et toutes les formes de culture. Aujourd'hui, par exemple, encore un grand écart. Il sera question de Louis de Funès, vu sous l'angle de la musique, et de jeux vidéo, vu sous l'angle du jeu vidéo. Vous retrouvez par l'alphabétique Bruno Donnet pour ses télescopages, notre petit nouveau depuis hier, Rémi Jacob, pour le journal des médias et les audiences qui sont en train de tomber à l'instant. Il est dans ce studio déjà. Et Jean-Luc Lemoine pour sa session de rattrapage. C'est la bonne nouvelle du jour. Chaque année, la croix sonde la confiance des Français envers les médias. Et chaque année, les journalistes en prennent pour leur grade depuis 35 ans, sauf cette fois-ci, la confiance progresse lentement. Commentaire des chiffres plongés dans les statistiques avec Gauthier Vaillant du journal La Croix. Ensuite, Yvan Le Bolloc alias Jean-Claude Convenant pour un retour très attendu, celui de Caméra Café. Ça s'appelle Caméra Café 20 ans déjà, c'est ce soir sur M6. L'émission culte revient d'une drôle de manière, vous allez voir, et on aura aussi la visite surprise de Bruno Solo, l'autre créateur de la série avec Le Bolloc. Enfin, le comédien Gérard Jugnot pour la première fois à l'affiche d'une pièce de théâtre. Attendez, j'ai pas fini ma phrase. Pour la première fois à l'affiche d'une pièce de théâtre avec son fils Arthur Jugnot. Ça s'appelle Le jour du kiwi, pièce de Laetitia Colombani au théâtre Édouard VII. C'est très drôle, cynique, tendre. Oui, tout cela en même temps. Et ça fait réfléchir. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
Bonjour Rémi Jacob.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Au sommaire de votre journal des médias.
Xavier Niel, le patron de Free, candidat pour reprendre la fréquence de M6. Également une action en justice menée par une centaine de personnes qui se disent victimes d'influenceurs. Vous entendrez dans un instant leur avocat au micro de Culture Média. Et enfin, Antoine Decaune et la chroniqueuse de Quotidien Ambre Chalumeau nous parleront de leurs programmes respectifs diffusés ce soir à la télé. L'un est sur Canal+, l'autre sur TMC.
Mais d'abord, évidemment, on commence par les audiences qu'ont regardé les Français hier soir, le top 3.
Et c'est France 2 qui est en tête avec le lancement de la série Piste Noire. 4,5 millions de téléspectateurs, soit 22% du public. Derrière, on retrouve TF1 avec le final de la saison 1 de la série Lycée Toulouse-Lautrec. 3,6 millions de téléspectateurs, soit 16,9% de part d'audience. Hein, c'est en hausse par rapport à la semaine dernière. Enfin, France 3 clôture ce podium avec le film de Guillaume Canet. Ne le dit à personne, 1,7 million de téléspectateurs et 8,8% de part d'audience.
Europe 1, le journal des médias.
Journal des médias qui débute avec Xavier Niel, officiellement candidat pour reprendre le canal de M6.
Et oui, le propriétaire du groupe Iliad, hein, qui détient notamment Free, veut lui aussi sa part du gâteau télé. Hein, c'est officiel depuis hier soir. Il est candidat à la reprise d'un canal TNT. Ça se passe dans le cadre du renouvellement des fréquences de TF1 et M6. Celles-ci arrivent à échéance le 5 mai prochain. Et dans le communiqué publié hier par l'ARCOM, on découvre que le projet de Xavier Niel est baptisé tout simplement 6, hein, c'est son nom, 6, et ça ne laisse évidemment aucun doute, hein, sur le canal, le numéro du canal convoité. À noter que Xavier Niel avait déjà, hein, dans le passé, tenté à plusieurs reprises de racheter le groupe M6, mais sans y parvenir.
On enchaîne avec des victimes d'influenceurs qui s'organisent pour mener une action en justice.
Oui, on l'a appris hier. Pour la première fois en France, des personnes qui se disent victimes d'influenceurs se sont regroupées pour mener ensemble une action en justice. Ce collectif rassemble plus de 80 victimes présumées qui viennent de porter plainte, notamment contre Marc et Nadé Blatta. Alors pour ceux qui ne les connaissent pas, c'est un célèbre couple d'influenceurs issus de la télé-réalité, suivi par 7 millions de personnes tout de même sur Instagram. Ils sont accusés d'avoir profité de leur notoriété pour faire la promotion d'investissements à risque. Alors j'ai demandé à l'avocat qui accompagne ce collectif de nous expliquer le sens de sa démarche. Il s'appelle Maître Ziegler, on l'écoute.
Le collectif donc, nous a mandaté pour 88 victimes. Nous avons écrit donc, deux plaintes. Les deux plaintes ont été envoyées la semaine dernière. Donc le but final du collectif et du cabinet d'avocats, c'est de faire donc, connaître à la justice ces victimes et surtout que la justice rende une décision qui fera office de jurisprudence. Cette jurisprudence va pouvoir aider grandement le gouvernement et le législateur afin de voter une loi pour encadrer au mieux la profession de l'influenceur.
Les influenceurs qui sont par ailleurs plus que jamais dans le viseur de Bercy.
Oui, hein, la DGCCRF qui a annoncé hier dans un communiqué que 60% des influenceurs ne respectaient pas les règles en place en matière de publicité. Hein, c'est ce qui ressort d'une grande enquête menée sur plusieurs mois. Il est notamment reproché à de nombreux influenceurs d'avoir, je cite, « trompé les consommateurs sur les propriétés des produits vendus ». Du côté de Bercy, on indique avoir déjà engagé plusieurs procédures. En parallèle, une grande consultation publique a été ouverte jusqu'au 31 janvier. Objectif, définir un nouveau cadre législatif afin de mettre fin à ces abus. Le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, était tout à l'heure au micro de Sonia Mabrouk. Dans la matinale d'Europe 1, il a évoqué ce dossier brûlant. On l'écoute.
Nous avons lancé une consultation pour modifier ces règles et les renforcer. On a déjà 12 000 participants sur cette consultation. Les règles sont les mêmes pour tous. Ces influenceurs, aujourd'hui, ils ont beaucoup de poids. Bah donc, ils ont beaucoup de responsabilités.
Et c'est une jungle aujourd'hui, ce n'est pas encadré, ce n'est pas suffisamment contrôlé.
Elles ne sont pas suffisamment respectées, elles doivent être renforcées. Nous allons le faire. Il y a des propositions d'ailleurs de parlementaires qui sont les bienvenues. On va essayer d'arriver à un texte unique sur ce sujet-là, mais on ne peut pas accepter que des pratiques illégales se répandent sur Internet, que des gens placent des produits sans dire qu'ils sont payés pour placer ces produits, qu'il y ait des pratiques commerciales qui soient frauduleuses.
Bruno Le Maire ce matin sur Europe 1 en direct. On reste à la radio, Fun Radio. Condamné à verser plus de 10 millions d'euros au groupe Énergie.
Oui, un jugement rendu hier par le tribunal de commerce de Paris et ça concerne une affaire qui remonte à 2016. À l'époque, Fun Radio avait été accusé d'avoir diffusé à l'antenne des messages susceptibles de fausser les mesures d'audience de Médiamétrie. Le tribunal a donc accordé 10,3 millions de dommages et intérêts au groupe Énergie qui estimait que ces messages avaient notamment eu un impact considérable sur ses revenus publicitaires.
Télévision maintenant avec ce soir un prime time spécial consacré sur TMC à Astérix.
Ah oui, et c'est à l'occasion de la sortie dans quelques jours du film Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, une super production avec notamment Guillaume Canet, Gilles Lelouch, Jonathan Cohen ou encore Vincent Cassel en mode conquérant.
Je vais devenir le nouvel empereur de Chine.
La mère Cléo, elle va pas s'en remettre.
Et mon nom restera gravé dans le marbre de l'histoire.
Vincent Cassel, hein, vous l'avez entendu, qui jouera évidemment le rôle de Jules César. Et ce soir sur TMC, eh bien, Ambre Chalumeau proposera, elle, un documentaire qui vous plongera dans la folle histoire de la BD préférée des Français. La chroniqueuse de Quotidien nous détaille son menu. Écoutez.
On a essayé de soulever le capot de comment on fabrique un film Astérix avec toute l'équipe du nouveau film et surtout comment on fabrique un album Astérix, la BD la plus lue au monde. Dans ce documentaire, on va découvrir la genèse de la BD, mais aussi toute l'ampleur globale du phénomène Astérix. Alors la BD, je la connaissais, mais honnêtement, je savais pas qu'il y avait autant de choses à en dire. Vraiment, j'ai halluciné. Dans ma tête, c'était rangé dans la catégorie enfance, et en fait, c'est tellement plus que ça.
J'ai également demandé à Ambre Chalumeau ce qui l'avait le plus marqué en préparant ce documentaire. Et ça concerne, vous allez l'entendre, les origines des deux papas d'Astérix, Albert Uderzo et René Goscinny.
Il y a un symbole qui m'a vraiment frappée en préparant le docu. Donc j'ai découvert à quel point Astérix, c'était un symbole national. Les Français l'adorent, un satellite français s'appelle Astérix, plein d'hommes politiques ont essayé de le récupérer. Et Astérix, la fierté française, a été créée par deux descendants d'immigrés. Dans le documentaire d'ailleurs, Anne Goscinny, la fille de René Goscinny, dit « Astérix et Obélix sont la preuve que l'étranger enrichit la France ». Et là, je trouve que c'est vraiment flagrant.
On change de chaîne, on part sur Canal+, Canal qui lance ce soir une nouvelle émission de cinéma.
Une émission mensuelle, hein, c'est en deuxième partie de la soirée, ça s'appelle Genre, une émission consacrée, hein, vous l'avez deviné, au cinéma de genre. Pour la première, ce sont les films de zombies qui sont à l'honneur, et oui, suivront les teen movies, les films de science-fiction, les westerns ou encore les biopics. On écoute son présentateur, un certain Antoine Decaune.
L'idée, c'est de s'amuser avec le genre cinéma tout court. Moi je suis cinéphage depuis toujours. J'aime le cinéma sous toutes ses coutures. Et au lieu de faire une émission de plus généraliste, et Dieu sait s'il y en a des bonnes, et je pense en particulier à celle de mon ami Lescure, on a essayé d'aller chercher un angle très particulier qui est le genre dans le cinéma. La patte, c'est d'essayer d'éviter l'émission pour spécialistes, mais au contraire de pouvoir s'adresser aux gens qui aiment le cinéma d'une manière générale.
J'en ai évidemment profité pour demander à Antoine Decaune quels étaient ses autres projets, et c'est assez éclectique.
Il y a un projet de fiction Voilà, peut-être de mini-séries de fiction. Je vous en dis déjà beaucoup en disant ça. Et puis des travaux d'écriture en ce moment sur divers sujets, dont un tien qui va vous intéresser. Si, les figurines Pixie, des petites figurines en plomb, voilà, auxquelles je voue une passion absolument sans borne.
J'adore. La nouvelle émission Antoine de Caunes a retrouvé ce soir à 22h55 sur Canal+, les Pixies. Merci beaucoup Rémi Jacob. À demain pour un nouveau journal des médias.
À demain.
Dans un instant, notre info média du jour, ou plutôt le miracle du jour, un sondage qu'on n'espérait plus, ou plutôt son résultat. Les Français s'intéressent de plus en plus à l'actualité et la confiance dans les médias progresse. On en parle avec Gauthier Vaillant du journal La Croix, qui dresse un baromètre depuis 35 ans et pour la première fois, ça monte. A tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
Enfin, une bonne nouvelle. Chaque année, depuis 35 ans, le baromètre La Croix sonde la confiance des Français dans les médias. Depuis quelques années, tous les médias en prenaient pour leur grade. Et cette année, alors qu'on se préparait, je veux dire les choses, à commenter, comme d'habitude, l'émission en est à sa quatrième saison, et on se préparait à commenter la défiance et le désintérêt grandissant des Français vis-à-vis des médias. Miracle! La confiance progresse, mais c'est fragile. Bonjour Gauthier Vaillant.
Bonjour.
Fin connaisseur de la politique, chef adjoint du service France au quotidien La Croix. La Croix qui publie ce matin ce baromètre sur la confiance des Français envers les médias, réalisé avec l'Institut Kantar Public One Point. La première bonne nouvelle de ce sondage, c'est avant qu'on parle de la confiance, les Français se sont davantage intéressés à l'actualité. Pour 76% d'entre eux, c'est davantage que les trois quarts. L'an dernier, c'était 62%, très forte progression. Comment vous expliquez ce retour de flamme, si j'ose dire ?
Eh bien, je pense qu'il y a un certain nombre d'événements qui habituellement créent un regain d'intérêt pour l'actualité. Et en 2022, on a eu des élections, voilà, une année d'élection présidentielle qui est toujours un moment qui rapproche...
Et législative,
qui rapproche toujours. Mais si vous me permettez, l'élection présidentielle intéresse davantage que l'élection législative en général. Mais c'est toujours un moment qui rapproche les Français des médias, forcément. Grand rendez-vous démocratique. Et puis, il y a eu, évidemment, la guerre en Ukraine qui a démarré en février. Il y a eu un été avec des événements climatiques extrêmement violents qui ont frappé les esprits et qui ont sans doute là aussi amené les Français vers l'information. D'une part, pour suivre le développement d'un certain nombre d'événements, je pense aux feux de forêt qui ont duré plusieurs jours, plusieurs semaines, et puis un besoin d'explication aussi de ces phénomènes-là. Tout ça fait, voilà, il y a eu un certain nombre d'événements qui non seulement ont été très importants, mais qui sans doute étaient d'une certaine manière moins clivant, moins dangereux pour l'image des médias que ce qu'on a pu vivre, je pense par exemple en 2019 avec les Gilets jaunes, qui est le grand exemple d'un phénomène médiatique dont on a énormément parlé, mais au détriment, j'allais dire, des médias. Là, on a eu des événements qui étaient un peu plus de nature à rapprocher les Français de l'actualité et des médias.
Il y a un signe qui ne trompe pas, c'est que les quatre chaînes d'infos continues progressent si on regarde par ce prisme-là. Regain d'intérêt après des années de saturation post-Covid où l'information était polémique et puis on avait peur, il y avait les pros, il y avait les anti-vax, il y avait les pros et les anti-confinement, il y avait les pros et les anti-masques.
Et puis il y avait aussi cet effet lié au confinement successif puis au couvre-feu qui ont provoqué des moments, on va dire, de désœuvrement qui vraiment dans le quotidien ont créé chez beaucoup de personnes un phénomène de surinformation, parce qu'en fait on s'informait parce que on n'avait que ça à faire et parce qu'on avait désespérément besoin de savoir quand la situation allait s'améliorer, comment et donc effectivement on a vu après dans les mois qui ont suivi et les années qui ont suivi un retour de balancier avec notamment ce qu'on a appelé les pratiques de diète médiatique, avec des gens qui avaient des habitudes de s'informer avec la radio le matin, avec le journal télévisé, et qui ont senti le besoin de couper.
Je rebondis sur ce que vous dites, car si le regain d'intérêt est net, plus de la moitié des Français montrent votre sondage, surtout les jeunes et surtout les femmes, disent ressentir de la lassitude par rapport à l'actu, et une actu répétitive, souvent angoissante, et face à laquelle ils se sentent impuissants.
Oui, effectivement. Alors, la première raison de cette lassitude, c'est 45% des répondants, c'est l'impression que les médias parlent toujours des mêmes sujets. Et ça, c'est quelque chose qui effectivement nous interroge à double titre. La première, c'est que nous, on voit bien dans les mesures de nos audiences, donc en gros, quand on voit ce qui marche dans nos éditions papier sur notre site internet, c'est vrai qu'on a rarement de surprises, au sens où c'est précisément les sujets dont on parle beaucoup et dont tout le monde parle beaucoup qui sont souvent ceux qui marchent le mieux aussi auprès de nos lecteurs. Donc la question, c'est est-ce que cette lassitude, cette répétition, elle vient du fait qu'on parle tout le temps des mêmes sujets ou qu'on en parle de la même manière ? Est-ce que le problème, c'est qu'on parle beaucoup en ce moment, par exemple, de la réforme des retraites ou qu'on en dit tous la même chose ? Je pense que ça, c'est une première interrogation. Et la deuxième, sur le deuxième facteur de lassitude, c'est effectivement ce sentiment d'angoisse, d'impuissance, qui là nous invite vraiment, et ça évoque, on pense tout de suite aux questions de crise climatique, aux questions environnementales.
L'éco-anxiété.
Voilà, là, ça nous appelle tout de suite à quelque chose où il y a, je pense, quand même une prise de conscience d'un certain nombre de rédactions là-dessus. C'est que quand on parle de crise climatique, il faut absolument, après plusieurs années où on a passé à être dans le constat, dans l'alarme,
il faut des solutions.
Il faut maintenant proposer des solutions. C'est ça, je pense, qui peut être une réponse à cette éco-anxiété qui provoque une lassitude, sans arrêter de parler d'un sujet qui reste quand même important, même si les gens en ont un peu marre.
Cette éco-anxiété, angoisse liée à la crise climatique, qui frappe, ce que montre le sondage, particulièrement les jeunes, est-ce que c'est pas juste une expression de bobo, l'éco-anxiété? Ou est-ce que vous le ressentez vraiment, si j'ose dire concrètement, quand bien même ce sont des chiffres et des réponses à des interrogations?
Non, c'est quelque chose qui est très concret. On le mesure déjà, je pense que chacun le constate empiriquement dans ses relations personnelles. On voit bien que l'éco-anxiété chez les jeunes, c'est pas un concept de bobo. Ce qui est, de même qu'on constate la fracture générationnelle à ce sujet-là, l'éco-anxiété, c'est une réalité qui touche les moins de 40 ans, peut-être les moins de 35 ans, plus encore les moins de 30 ans. Et c'est vrai que chez nous, par exemple, à la Croix, c'est un défi parce qu'on a un lectorat qui est beaucoup plus âgé que ces tranches d'âge-là et qui n'a pas la même sensibilité. La question de l'éco-anxiété se pose moins pour eux. Donc il faut arriver à créer ce dialogue-là.
Ce qui est très intéressant, c'est que vous recensez les sujets dont les Français pensent que les médias ont trop parlé. Le champion, toute catégorie, c'est la Coupe du Monde de foot. Et pourtant, 24 millions de téléspectateurs étaient devant leur télé le soir de la finale. C'est le record, donc ils ont regardé et on a trop parlé. Là, est-ce qu'on n'est pas totalement schizophrène?
Non, je pense que c'est pas du tout exclusif en matière de sport. Vous savez, il y a le match et puis il y a refaire le match. Mmh. Je pense qu'il y a énormément de gens qui prennent du plaisir à suivre l'équipe de France, la Coupe du Monde surtout, considérant leur parcours cette année. En revanche, c'est pas parce qu'on a du plaisir à regarder les matchs qu'on a envie d'entendre et encore des commentaires, refaire le match et comment a joué Mbappé et qui était à sa place, et
là où c'est paradoxal,
la crise dans le vestiaire. Voilà,
je suis absolument d'accord avec vous. Et en même temps, les meilleurs scores, par exemple, d'une chaîne comme la chaîne L'Équipe sur le canal 21 de la TNT, ce furent les émissions de commentaires de la Coupe du Monde. Donc, ça les énerve et ils regardent. Est-ce que c'est pas spécifiquement français?
Non,
j'ai l'impression d'être dans Astérix.
Non, je pense que. Alors, déjà, par exemple, si on parle de la chaîne L'Équipe, on a déjà quand même un premier gros filtre, qui est le public de la chaîne L'Équipe, par définition. Voilà, c'est les gens qui sont fans de sport. Et L'Équipe, sachant que la chaîne L'Équipe n'a pas les droits de diffusion pour la Coupe du Monde ou la Ligue 1, on sait très bien quand on va regarder une émission qui parle de foot, on va pas voir peu d'images et essentiellement des gens qui commentent autour d'un plateau. Donc effectivement, ça n'empêche pas qu'il y ait, un public plus important que d'habitude qui s'intéresse au foot, y compris à la partie commentaire, mais que dans la majorité en tendance des gens, il y ait l'impression qu'on en a un peu trop parlé.
Je vais sortir du foot et il n'y a pas de chaîne dédiée à ceci. Les Français trouvent qu'on a aussi trop parlé de la mort d'Elisabeth II.
Oui,
et pourtant, ils ont regardé énormément et les journaux ensuite sont sortis pour faire des bios de la vie de la souveraine britannique. Se sont très très bien vendus.
Oui, alors là, c'est vrai que sur ce sujet-là, ça me paraît un peu plus paradoxal. Peut-être parce que on a un peu de recul sur cet événement maintenant et il est possible que les... Il est possible qu'il y ait une forme de reconstruction a posteriori sur le moment. Tout le monde est saisi par la mort de cette icône. Et une fois que tout ça est passé derrière nous, peut-être qu'on se dit finalement, on a fait beaucoup de bruit pour rien. Il y a peut-être un peu de reconstruction. Je pense que sur le moment, on a vu effectivement. Je reconnais que je suis davantage surpris parce que je pense que c'est avec le recul qu'on se dit bon, est-ce qu'on n'en a pas trop parlé.
Alexandre Gamelin, qui on travaille, appelle ça l'effet cloche de Pâques. Vous savez, on cache le chocolat dans le jardin, on se jette dessus, on mange tout et après on regrette d'en avoir trop mangé, de s'être trop gavé. Culture Média continue, on n'est jamais gavé d'infos. La Croix publie aujourd'hui son baromètre de la confiance envers les médias. On est avec Gauthier Vaillant, chef adjoint du service France. A tout de suite.
9h-11h,
Europe 1 Culture Média,
Philippe Vandel.
Les choses se sont-elles passées telles que le média l'a raconté? C'est la question que pose La Croix depuis 35 ans. C'est le fameux baromètre de La Croix de la confiance envers les médias. On en parle avec Gauthier Vaillant, qui est à La Croix, chef adjoint du service France. Avant, vous étiez au service politique, donc vous connaissez plusieurs aspects de cette enquête. Les choses se sont-elles passées comme l'a raconté la radio, la presse écrite, la télévision, Internet? La radio est en tête.
Oui, la radio est en tête.
Revient en tête.
Exactement. La radio avait brièvement perdu sa première place, qui est quand même une tendance historique l'année dernière, et la reprise.
La radio est en tête avec 54% de gens qui estiment que la radio raconte les choses telles qu'elles se sont passées. Oui. Devant le journal, la presse écrite, 52%. Oui. La télévision, 49%. Et Internet, loin derrière. On en parlera, c'est un sujet à part, Internet. Vraiment très, très loin derrière, 33%. La radio, on est très content que la radio reprenne la tête de cette confiance-là.
Ben, ça veut dire, je ne veux pas minimiser la première place de la radio, c'est effectivement une très bonne chose, mais la radio, 54%, le journal, 52%, la télé, 49%, ça se tient dans un étiage relativement restreint, et on voit que les médias traditionnels conservent le lead sur la confiance, la crédibilité que leur accordent les Français, loin devant Internet. Il faut dire aussi que ces trois médias-là augmentent. Hein, voilà, on est sur un an, on est à plus 5 points pour la radio, plus 3 points pour la presse et plus 5 points pour la télévision. Donc on voit qu'il y a une confiance qui se maintient et qui remonte même envers des médias traditionnels que pourtant on a souvent dit en perdition.
Mais là on est chez Durkheim, on va faire de la sociologie. L'animal social ne fait pas ce qu'il dit et ne dit pas ce qu'il fait. Les sources d'information au quotidien, c'est la télé qui est en tête, 71%, devant Internet, 52%, la presse, 49%, et la radio, 39%. Je remets tout ça dans mon checker. Ils ont moins confiance dans la télévision, qu'ils regardent davantage, et ils ont plus confiance dans la radio, qu'ils écoutent moins.
Et oui, mais ça, c'est
la France ou c'est l'humain?
Je pense que c'est l'humain. Pour ce qui est de la télévision, il y a tout simplement un critère de facilité d'accès. Voilà, allumer la télévision, la regarder, ça fait partie, pour encore beaucoup de Français, il y a un rituel autour du journal. Il y a, voilà, vous le disiez tout à l'heure, toutes les chaînes d'infos en continu ont aussi progressé. Ça reste un média qui est, j'allais dire, facilement consommable parce qu'on peut le laisser tourner chez soi.
Ça sert de nounou parfois, alors que la radio ne sert pas de nounou, par
exactement.
Exemple, quand on a des enfants en bas âge.
Absolument, et c'est vrai que c'est pas forcément si paradoxal que ça, au sens où le baromètre montre bien aussi qu'il y a un esprit critique des Français vis-à-vis des médias qui est quand même en bon état. Ce n'est pas parce que les Français regardent davantage les chaînes d'info en continu qu'ils leur font une confiance aveugle. Au contraire, ils restent quand même très réservés sur la confiance qu'ils leur accordent. Ça veut dire qu'on peut aussi regarder beaucoup la télévision tout en gardant de la distance.
En même temps, il y a peut-être un phénomène de vase communicant, parce que ce qui chute, c'est Internet, 33% seulement, et donc de plus en plus on voit qu'il y a une dichotomie entre les infos données sur Internet et les infos données par et sur les médias traditionnels.
Oui, alors là aussi, c'est vrai qu'il y a eu une longue période dont on n'est pas tout à fait sorti, où pour nous journalistes et pour le public, c'est très compliqué d'appréhender l'information sur Internet, parce que cette profusion d'informations, cette diversité infinie des sources, spontanément, on a envie de la considérer comme une très bonne chose. Peut-être que cet écart qui se creuse entre la confiance qu'on a envers Internet et la confiance qu'on a envers les médias traditionnels montre que il y a une prise de conscience. Voilà, on arrive à avancer sur ce terrain-là, du fait que Internet, c'est aussi un lieu de danger par rapport à l'information, par rapport à la vérité, finalement le travail de journaliste reste une garantie importante, y compris une garantie importante aux yeux des Français pour savoir à qui
là,
on peut faire confiance.
Il y a une grosse perception il y a une grosse différence dans la perception sur les infos qui émanent d'Internet entre les générations.
Oui. Oui, et là pour le coup, c'est un.
Voilà, vous avez changé de tête.
Ça va être un sujet. Oui,
comme si ça vous inquiétait.
Oui,
j'ironise, mais je suis vraiment très sérieux et je sais que le mal est profond.
Oui, c'est vrai que c'est très inquiétant. Ça me rappelle, il y a la semaine dernière, il y a une autre enquête dont on a beaucoup parlé qui est sortie de la Fondation Jean Jaurès sur les croyances de la génération.
On en a parlé ici.
Qui est sur TikTok. Voilà.
Un chiffre complètement dingo. 3% des gens aux États-Unis sont platistes, pensent que la Terre est plate. Mmh. C'est 29% des jeunes qui ne s'informent quasiment que sur TikTok, qui ont TikTok comme moteur de recherche. Un tiers des jeunes Américains pensent que la Terre est plate. Un tiers des jeunes Américains qui s'informent sur TikTok.
Et 40% des 18-24 ans considèrent qu'un influenceur peut être une source fiable s'il a beaucoup d'abonnés. Donc c'est quand même un critère, des influenceurs
relatif.
Relatif, effectivement. Donc il y a une cohérence dans cette étude, le baromètre qui sort aujourd'hui, qui montre que effectivement chez les jeunes, chez les moins de 35 ans, a fortiori chez les moins de 24 ans, il y a une différence de perception, un défi énorme en termes d'éducation aux médias par rapport à la fréquentation des réseaux sociaux. Ça s'explique par un facteur qui est très simple, c'est que quand on est jeune, les réseaux sociaux, on a grandi avec. C'est évident. Donc c'est compliqué de se dire ah bah oui, c'est évident, on les fréquente, tout le monde est dessus, mais il faut s'en méfier.
Vous dites ça, vous vous rendez compte que, bien sûr, les jeunes vont davantage que toutes les générations sur les réseaux sociaux et sur Internet, mais ils disent qu'ils sont confrontés plusieurs fois par jour à des fake news et ils utilisent davantage que les autres les fact-checkers, ceux qui vérifient les infos. Donc il y a du bien dans le mal, si j'ose dire.
Oui, en fait, c'est un peu le mécanisme est le même. Les fact-checkers sont des services qui sont sur Internet. Donc tout ça, le point commun de tout ça, c'est la fréquentation d'Internet. Et on voit bien que effectivement, les générations plus âgées utilisent moins le fact-checking et utilisent moins les réseaux sociaux et s'en méfient davantage. Mais chez les jeunes, il y a aussi une explication à cette différence de fréquentation des médias, c'est que aujourd'hui la presse notamment ça a un coût et ça fait très longtemps qu'on le sait, qu'on le dit et que les titres de presse essayent de faire des efforts là-dessus, mais voilà, il y a une difficulté qui fait que mécaniquement j'ai envie de dire les jeunes sont davantage sur les réseaux sociaux.
Et quid de la régulation, est-ce que les Français réclament plus de régulation ou moins de régulation, et là encore il y a une fracture entre les jeunes et les moins jeunes?
Oui, effectivement, les jeunes réclament bien plus une régulation, beaucoup moins pardon, de régulation que les plus âgés, parce que chez les plus jeunes, il y a cette idée que toute tentative de régulation pourrait être finalement une entrave à la liberté, et que Internet, c'est un espace de liberté d'expression, de liberté dans les formats, et qu'il faut la préserver. Donc en fait, le travail qui se présente pour les années à venir, c'est d'expliquer qu'est-ce qu'on entend par la régulation. Qu'est-ce que ça veut dire de réguler l'information? Il faut faire la part des choses entre ce qui est illégal, ce qui est faux, ce qui est juste critiquable pour des questions morales, mais il faut bien faire comprendre à l'ensemble des générations et aux jeunes en particulier que la régulation, ça n'est pas la censure.
Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Gauthier Vaillant. Je rappelle que vous êtes chef adjoint du service France du journal La Croix. Le 36e baromètre de confiance des Français dans les médias, c'est aujourd'hui dans le journal La Croix et évidemment sur votre site internet. Nous, on se retrouve dans un instant avec Yvan Le Bolloc, alias Jean-Claude Convenant. Un retour très attendu, Caméra Café, créé il y a 20 ans. Ce retour, c'est ce soir sur M6. On va également retrouver Bruno Donnet pour ses télescopages. A tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Dans un instant, nous recevons Yvan Le Bolloc. On parle du retour de la série culte Caméra Café qui revient ce soir à l'occasion d'une soirée anniversaire sur M6. Mais d'abord, c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno.
Bonjour Philippe.
Tous les jours, Bruno, vous revenez ici sur la fabrique médiatique et ce matin, vous êtes venu casser l'ambiance.
Oui, vous en avez parlé il y a un instant, Philippe. Le baromètre annuel, celui qui mesure la confiance que les Français accordent aux journalistes, est en hausse. Une sacrée bonne nouvelle, puisque ça faisait des années qu'il baissait irrémédiablement et que la défiance à l'égard des médias grandissait dans l'opinion. Pour autant, et dans ce contexte enfin euphorique, j'ai eu envie de revenir sur une petite information, comment dire, pas tout à fait de nature à entretenir le cercle vertueux entre les journalistes et leur public, je vous raconte. C'est notre consoeur Ève Roger qui, reprenant un indiscret publié par la newsletter Politico, a popularisé cette nouvelle totalement édifiante avant-hier sur France 5 dans l'excellente émission C'est médiatique. Figurez-vous que la semaine dernière, deux jours avant les grandes manifs contre la réforme des retraites, le plus haut sommet de l'État a eu une riche idée.
La communication de l'Élysée organise une petite rencontre dont elle a le secret, c'est-à-dire un déjeuner avec le président et 10 éditorialistes de la presse parisienne convoqués à peine 24 heures avant.
Emmanuel Macron a convoqué, on ne savait pas qu'il était à ce point autoritaire, 10 éditorialistes, on ne savait pas qu'ils étaient si obéissants, à l'Élysée. Bien, mais alors, qui avait-il convié exactement ?
Alors on y trouve Guillaume Tabar du Figaro, Dominique Seux de France Inter et des Échos, Françoise Fressos du Monde ou encore Nathalie Saint-Cricq de France Télévisions.
Ok, la crème de la crème donc. Mais maintenant, pourquoi diable le président de la République souhaitait-il aussi urgemment déjeuner avec ces gars-là ?
L'objectif de l'Élysée, c'est qu'Emmanuel Macron, distille la bonne parole, donne lui-même les éléments de langage aux 10 journalistes les plus influents de la presse parisienne, afin que la parole présidentielle infuse dans l'opinion et pourquoi pas l'influence.
Ça alors, le président de la République croit pouvoir distiller la bonne parole et compte sur des journalistes pour influencer l'opinion. Mais non d'une pipe, on est en 2023, mes enfants, ça se passe plus comme ça. Plus comme ça ? Pas si sûr, car Ève Roger a poursuivi ses investigations. Elle est allée regarder ce que les 10 éditorialistes politiques en question avaient écrit et écouter un peu ce qu'elle a découvert.
Sur le site de France Inter, qui dégaine le premier le soir même, le journaliste politique Yael Gauz publie un article avec cette phrase « Macron ne croit pas à la victoire de l'irresponsabilité ».
Elle a noté une formule, la victoire de l'irresponsabilité, qu'elle a, curieusement, retrouvée également dans la presse écrite.
Idem dans la matinale du Monde, où l'on retrouve cette même expression « Macron ne croit pas au blocage du pays, ni à la victoire de l'irresponsabilité ».
Dans la presse écrite, mais aussi sur BFM TV, dans la voix d'un certain Benjamin Duhamel qui, lui aussi, c'est du bol, avait été convié au déjeuner élyséen.
Côté exécutif, on explique qu'Emmanuel Macron ne croit pas à la victoire de l'irresponsabilité ni à un pays à feu et à sang.
Bigre, comme le président de la République l'espérait, les éditorialistes ont donc très fidèlement distillé la bonne parole. Mais le meilleur est à venir et je voulais garder pour la fin, Philippe, car figurez-vous que, comme l'a savoureusement raconté Ève Roger, pour participer à ce déjeuner, l'Élysée a exprimé une petite condition.
Les journalistes ne doivent pas dire qu'ils ont vu Emmanuel Macron et donc ne peuvent pas le citer.
Eh oui, le rendez-vous devait rester secret. En d'autres termes, Emmanuel Macron a transmis ses propres éléments de langage à des éditorialistes qui les ont donc repris, mais qui à aucun moment ne nous ont expliqué qu'ils étaient tout droit sortis de la bouche du président de la République puisqu'ils ont obéi très servilement à la consigne qui leur avait été donnée en haut lieu. Alors qu'est-ce que raconte cet épisode qu'on croyait d'un autre âge ? Eh bien, il dit qu'en France, du côté médiatique, les éditorialistes politiques continuent de pratiquer un journalisme de cour, trop contents d'en être, de côtoyer le Saint des Saints et de déjeuner sous les ors de la République. Et du côté politique, eh bien que le sommet de l'État qui fuit si ostensiblement les interviews n'hésite pas à instrumentaliser une partie de la presse et qu'il croit pouvoir tenir des journalistes au secret. Allons bon. Ah, une dernière chose, Philippe, j'ai oublié de vous dire en préambule, hein. À propos du baromètre qui mesure la confiance du public à l'égard des médias, les Français ne sont que 26% à trouver que les journalistes sont indépendants à l'égard des pressions du pouvoir et des responsables politiques. Sacrée surprise.
Merci beaucoup Bruno Donnet, à demain. Yvan Le Bolloc a le sourire. Bonjour Yvan Le Bolloc.
Oui, oui.
Vous
oui.
étiez consterné en même temps qu'amusé à entendre ce que racontait Bruno.
Oui, parce que ce genre de choses, on s'en doute toujours, mais on se réfugie derrière. Oh non, ils vont quand même pas aller jusque-là. Et puis si, ils vont jusque-là et au-delà. Et si ça, c'est pas la victoire de l'irresponsabilité, qu'est-ce que c'est alors ?
Yvan Le Bolloc, vous êtes musicien avec Ma Guitare s'appelle Reviens, ex-animateur télé, Le Plein de Super sur Canal avec votre compère Bruno Solo, et comédien et surtout créateur de Caméra Café avec ce même Bruno Solo. Mm-hmm. Et votre actu, c'est le retour de la série culte Caméra Café. Avec Caméra Café, 20 ans déjà, c'est sur M6 ce soir à 21h. Vous fêtez les 20 ans ce soir, même si la série a été mise à l'antenne en septembre 2001, parce qu'il y a des histoires de confinement et de Covid. Cette saison, 3 200 000 téléspectateurs avec une pointe à 5 600 000. Je donne tous les chiffres pour savoir ce qu'on va comprendre et ce qu'on va voir ce soir. Série vendue et ou adaptée dans plus de 60 pays, dont la Chine, les Philippines, le Brésil. Alors ce soir, Yvan, on ne va voir ni un best-of, ni un nouveau film, mais une création hybride, originale. On verra quoi ?
Ben, vous allez voir 90 minutes d'aventure inédite de Jean-Claude, Hervé, Maëva.
Je l'ai vu, il passe une sale journée.
Ah oui, passe une... Bah oui, c'est-à-dire que là, on va les retrouver, évidemment, 20 piges après. 20 ans après, beaucoup de choses ont changé. Les blagues ont changé, la façon de s'habiller a changé, la politique de l'entreprise a changé. Et puis surtout, les jeunes arrivent avec des espaces de coworking, avec des espaces, des smile zones, des endroits qui sont dédiés au rire et à la détente. Tout ça dans des couleurs acidulées, avec des espèces de poufs sur lesquels... On ne peut pas s'asseoir, à moins de se casser la gueule. Voilà, c'est ça, Caméra Café, 20 ans déjà. C'est ces deux vieux dinosaures là, qui se retrouvent, qui prennent de plein fouet, comme certains Français. Hein, comme
le 2.0.
Tout ce qu'on a pris dans la poire d'ici, depuis 20 piges, quoi, c'est une histoire française. Voilà.
On va retrouver les aventures de Jean-Claude, votre personnage, Hervé Dumont, Bruno Solo. Bruno Solo qui ne peut pas être avec nous ce matin, mais qui nous a envoyé un petit message.
Salut Philippe, salut mon vent. Écoutez, je ne peux pas être avec vous parce que je n'ai pas le don d'ubiquité, pas plus que toi Yvan, donc toi tu es là et moi je suis ailleurs tout en étant avec toi sans être tout à fait avec vous. Mais pour autant, pour avoir un peu le contrôle de la situation, tu me connais comme si tu m'avais tricoté, tu n'as jamais cessé de me le dire et tu as raison, je vous ai préparé des petits sujets de conversation, questions-réponses, hein, c'est sur vos portables respectifs. Voilà Philippe, il suffit que tu lises les questions que je t'ai envoyées, Yvan, que tu donnes les réponses que je t'ai tricotées, et puis ça devrait très très bien se passer. Comme ça, tu vois, je garde un petit peu le contrôle, tu me connais. Et voilà, et je suis comme je suis pas là, mais je sais ce qui se passe, puisque c'est moi qui ai tout préparé. Voilà, donc Caméra Café, voilà, la spéciale, 20 ans déjà, enfin voilà. Vous avez vraiment de quoi vous éclater, vous avez 5 minutes, et puis pas la peine de me raconter comment ça s'est passé, puisque je le sais, c'est moi qui ai tout écrit. Allez, salut les gars, amusez-vous bien, c'était un plaisir.
Extraordinaire.
Hervé Dumont, tu voulais dire un truc? ça va bien faire chier la direction. Il a que ça à dire. C'est pas moi qui l'ai écrit cette réplique.
Alors j'allais dire, Bruno Solo, qu'on remercie. On est totalement dans les télescopages de la chronique télescopage de Bruno Donnet, puisque il nous envoie les éléments de langage.
Oui, c'est ça. Comment on doit se comporter, le doigt sur la couture.
Et qu'est-ce qu'on doit dire? Alors, une acuité assez incroyable dans cette série, dans Caméra Café.
Il y a eu... Pas Bruno Donnet, hein,
évidemment. J'ai bien compris. Bruno Solo, il est con. Cette saison, 670 épisodes conservés. Vous en avez tourné plus de 800, mais il y en a qui sont passés à la trappe. La série traitait de tous les sujets du quotidien de l'époque et même d'aujourd'hui, hélas. Le harcèlement, le tsunami, le réchauffement climatique, l'arrivée de l'iPhone 1, l'élection de Nicolas Sarkozy. Et il y avait parfois des textes, des séquences totalement prémonitoires qui télescopent l'actu de 2023. Exemple, cette conversation entre vous et Jean-Guy, c'était qui Jean-Guy pour qui ne connaît pas?
Jean-Guy, c'est le DRH, c'est mon supérieur, c'est celui qui fait la pluie et le beau temps à l'étage de chez Jeugène.
Jean-Guy, avec le personnage d'Yvan Le Bolloc, il est question des annuités avant la retraite.
Dites, Jean-Guy, c'est vrai qu'il va falloir qu'on travaille plus longtemps avant de partir en retraite?
Ah oui, 40 années de cotisation ne suffiront pas. Il faudra 41, voire 42 ans.
Oh mais comment que je fais si je me fais virer à 50 ans comme tout le monde, hein?
Eh bien, vous attendez de retrouver du travail pour cotiser à nouveau.
Bah oui, mais à 50 ans, je risque de canner avant de retrouver un job, moi.
Ah, comme ça, vous n'aurez plus à cotiser. Elle est pas belle, la vie?
Si. Enfin, je sais plus.
Non, n'en faites pas. Nous, on sait.
Heureusement qu'il est là, Jean-Guy.
Non mais ce débat sur les annuités, on l'entend en ce moment.
Oui.
Et vous l'avez écrit il y a 22 ans, 23 ans.
Ouais.
Vous étiez auteur, vous êtes le créateur de la série avec Bruno. Je sais que c'est vous qui avez eu l'idée de planquer une caméra dans la machine à café. Comment ça fonctionnait? Vous étiez un pool d'auteurs. Comment vous avez travaillé?
En fait, il y a eu un emballement suite à la diffusion des tout premiers épisodes de Caméra Café. Tout le monde trouvait ça formidable et tellement...
Je souris parce que vous avez mis 7 ans à le vendre,
voilà.
Où tout le monde trouvait ça un peu Rashmoon.
Voilà. Oui, personne n'en voulait en fait. Ouais. Et puis là, on diffuse 4-5 épisodes et ça y est, c'est la joie dans les chaumières, ça danse, M6 est en ébullition et ils nous disent, écoutez les gars, on va doubler la dose en fait, c'est-à-dire qu'on vous avait demandé 3 minutes 30 quotidien, on va passer à 7. Et là, à 7, c'est plus la même, quoi. C'est-à-dire que ce qu'on pouvait écrire entre moi, Alain Capoff, Bruno Solo et Alexandre Pell, qui était là dès le début, ainsi que mon frère, ça devenait tout à fait impossible. Donc, il a fallu qu'on fasse passer des annonces dans Libération, on mobilisait des salles de cinéma, on faisait rentrer des gens qui voulaient travailler pour la télé, pour écrire pour la télé. Et on a fait comme ça des castings géants, un peu sauvages. Et on on est très fiers d'avoir quelque part formé autant d'auteurs, parce que déjà la mode aux États-Unis, on savait très bien que pour faire un show comme Seinfeld, il y avait 50 gonzes qui bossaient comme des chiens pour sortir des textes, parce que des acteurs, il y en a plein partout de talent, mais par contre des gens qui savent écrire pour la télévision ont démarré à l'époque.
On est d'accord. Caméra Café pourrait revenir sur M6 si les audiences sont bonnes, mais sous quelle forme? Pas en quotidienne.
Non, ça c'est parfaitement impossible. On est la retraite aussi, elle nous tend les bras. Donc, mais par contre, je suis pas contre le fait de revenir tous les ans ou tous les deux ans et de faire une espèce de gigantesque revue de presse de tout ce qui s'est déroulé dans les mois écoulés.
Yvan Le Bolloc danse parce que c'est masse. Vous aviez monté ce groupe, Ma Guitare S'Appelle Revient, et c'est la bande son de l'émission qu'on va voir ce soir sur M6. Merci beaucoup d'être venu. Je rappelle le retour de Caméra Café 20 ans déjà, ce soir à 21h sur M6, suivi d'un doc à 23h, Caméra Café 20 ans après. Et ensuite, il y a encore un best-of pour toute la nuit.
Ouais, il y en a pour toute la nuit.
Grand merci, il y en a pour toute la vie, d'être venu nous voir. Après les infos de 10h, notre invité c'est Gérard Jugnot pour une pièce de théâtre, Le Jour du Kiwi, très très drôle, dans laquelle il joue pour la première fois avec son fils Arthur. Et puis dans Les Indispensables, Stéphanie Loire nous parle de Louis de Funès et Jean Z nous parle du retour très attendu de Lara Croft. Et évidemment, il y a aussi le retour de Jean-Luc Lemoyne. À tout de suite.